Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors au sommaire, ce week-end, eh bien, et si la France parvenait enfin à créer un vaccin efficace contre le Covid-19 et contre ses variants futurs? C'est l'objectif de la biotech LinkyVax, qui travaille plus globalement sur une plateforme vaccinale universelle capable de combattre bien d'autres virus. On va en parler dans un instant avec notre invité, André-Jacques Auberton-Hervé, cofondateur de LinkyVax. Nous parlerons bien sûr des enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux business de la jeune entreprise. Toujours dans le domaine de la santé, nous reviendrons sur les axes de développement de Doctolib qui a réalisé récemment une levée de fonds de 500 millions d'euros. Doctolib qui est désormais la licorne française la plus valorisée à presque 6 milliards d'euros. Enfin, nous parlerons d'industrie française dans cette émission avec deux reportages en Savoie et en Haute-Savoie. Tout d'abord dans l'usine des Deux Marmottes, on y produit bien sûr des infusions. Et puis ensuite dans l'usine d'Opinel, on ne présente plus le célèbre couteau fabriqué en France depuis 1890. Mais tout d'abord, eh bien, avant de développer tous ces sujets, arrêtons-nous sur la grande tendance du moment, c'est le métavers, en anglais le métaverse, cet univers virtuel, ce web 3.0 qui, dit-on, va envahir nos vies dans quelques années. Alors, simple feu de paille ou réelle révolution, eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, certains y voient déjà les opportunités business. C'est le cas de Ridouane Abagri, il a déjà créé un digital collège sur les métiers du numérique et de l'internet. Il va donc y ajouter un métaverse collège qui ouvrira ses portes à la rentrée d'octobre à La Défense, près de Paris. Et il est venu en parler à François Sorel dans Tech & Co.
Nous, effectivement, on a un grand groupe d'écoles qui s'appelle le Collège de Paris et Digital College. Donc, on a plusieurs écoles sur toute la France et un peu partout dans le monde. Et on s'est dit avec la déclaration de Mark Zuckerberg ces derniers mois sur le Meta, qu'il fallait pour une fois que la France soit courageuse et lance sa propre école de Meta. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit les premiers en Europe et aussi les premiers dans le monde à proposer, faire une proposition de valeur sur de la métaverse.
Il y a des chiffres qui sont quand même intéressants. Vous avez parlé de Mark Zuckerberg, qui a annoncé qu'en Europe, il allait embaucher 10 000 personnes.
C'est ça.
Pour créer le métavers, en fait.
C'est ça. Donc, en fait, on crée cette école pour former ces 10 000 personnes que Mark Zuckerberg cherche à recruter, tout simplement.
Vous allez former les 10 000 ?
On va essayer, en tout cas. On va donner le maximum. Donc, comme vous l'avez vu, le métavers, c'est un univers virtuel. C'est un web 3.0. Donc, effectivement, les métiers, il y en a énormément. C'est comme si on recommençait, on va dire, à créer un tout nouvel univers. Et le but, c'est de former pas un seul métier, mais à tous les métiers qui sont à ce métaverse. Donc, dans ce métaverse, effectivement, vous avez déjà les métiers qui sont pour créer ces applications. Donc, les développeurs XR qui créent des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Mm-hmm. Donc, des espaces où il y aura des interactions sociales dans un univers, on va dire, connecté. Après, vous allez avoir aussi les métiers qu'on connaît déjà un peu tous sur la crypto-monnaie, les NFT, qui sont très demandés. Et c'est vrai que là, depuis notre annonce vendredi, on a eu une tonne de demandes ce week-end sur cette formation spécifiquement. On va devoir aussi créer des modélisations 3D. Donc voilà, nos vêtements, il faut qu'on puisse mettre des vêtements aussi personnalisés dans le métavers. Il y a déjà beaucoup de marques qui ont lancé des gros investissements. Donc, je ne sais pas si on peut dire les marques, mais en tout cas, ils ont
sûr,
donc Adidas, Nike, Balenciaga. Ils ont lancé effectivement un gros budget pour recruter des créateurs métavers de demain.
Carrefour qui lance.
Carrefour aussi, Carrefour effectivement,
acheté,
avec qui on est en discussion. Effectivement,
des milliers de mètres carrés sur Sandbox notamment.
Sur Sandbox, voilà, pour acheter de l'immobilier. Donc, on va dire que ce n'est pas un métier qu'on va former, c'est un univers.
Au bout de 3 ans, les jeunes qui sortiront de votre école, forcément, auront un job assuré, quasi.
Alors, aujourd'hui, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Aujourd'hui, les
85% des métiers de 2030.
Aujourd'hui, énormément d'entreprises cherchent des profils qu'ils ne trouvent pas. Donc aujourd'hui, on est sûr d'être dans un plein emploi. Donc je pense qu'on ne veut pas former que des profils pour la France. On veut former pour le monde entier. On va fournir effectivement pour toute l'Europe, pour les États-Unis. Parce que c'est vrai que la compétence digitale française est très réputée aux États-Unis. On veut aussi recruter et former pour le Moyen-Orient, pour l'Asie. On va dire qu'on veut vraiment être la pépinière de talents sur en tout cas ce domaine d'activité.
Et la première promotion sera donc constituée juste après l'été. Elle devrait comprendre une cinquantaine d'étudiants. Coût de la scolarité entre 6 500 et 10 000 euros selon les parcours choisis. Il y aura aussi des parcours en alternance. Bonjour André-Jacques Auberton-Hervé.
Bonjour.
Alors dans le domaine des vaccins, on est encore loin du métaverse. On est vraiment encore dans la réalité des laboratoires, je pense.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Alors on vous a longtemps connu et invité ici même dans le domaine des semi-conducteurs avec Soitec, que vous aviez fondé en 92. Vous y êtes resté jusqu'en 2015 et donc désormais cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec Linkivax que vous avez cofondé à la fin de l'année 2020 avec le professeur Yves Lévy, directeur de l'Institut de recherche vaccinale de l'INSERM. On va en parler dans quelques instants. Pour bien comprendre ce que vous faites chez Linkivax, je vous propose un court sujet signé Hélène Cornet.
Cette biotech cherche un vaccin qui agit durablement et contre tous les variants. Linkivax a été créé fin 2020 par le directeur de l'Institut de recherche vaccinale de l'INSERM et l'ancien patron de Soitec. Elle a obtenu une licence mondiale pour une nouvelle plateforme innovante de vaccins, des vaccins appelés universels. Ils activent les cellules tueuses du système immunitaire, quel que soit l'agent pathogène. Ils pourraient être efficaces contre plusieurs types de virus, le Covid-19, mais aussi le sida ou le papillomavirus. La biotech a publié des résultats encourageants après ses études précliniques et vise les premiers essais sur l'homme pour la fin de l'année. Son financement, les actionnaires fondateurs et 31 millions d'euros de la BPI dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Elle vient de signer un accord avec un fabricant à Toulouse pour passer à l'étape industrielle. L'ARN messager a fait office de booster dans une première campagne de vaccination, explique Linkivax. L'idée est de passer à la deuxième vague de vaccins qui protégera sur le long terme.
Alors André-Jacques Auberton-Hervé, on va revenir sur tous ces points. Il y a des enjeux à la fois sanitaires et des enjeux aussi business, bien évidemment. Comment vous êtes-vous lancé dans cette nouvelle aventure avec le professeur Lévy? Qu'est-ce qui vous a poussé, il y a un peu plus d'un an, à aller vers cette grande aventure des vaccins? On était fin 2020, on parlait déjà beaucoup de vaccins. Le Covid avait fait son apparition quelques mois plus tôt.
Tout à fait. Bon, écoutez, vous avez parlé de Soitec. Je crois que l'histoire et mon histoire, c'est justement d'arriver à faire sortir de belles technologies des laboratoires. La France a énormément de R&D, de très belles technologies. Le professeur Lévy a travaillé pendant 10 ans pour trouver une technologie innovante dans les vaccins, initialement pour le sida, l'actualité aujourd'hui évidemment.
C'est le SIDAction.
Voilà, le SIDAction. Donc ça a été la motivation de la création du laboratoire, le VRI, qui a développé cette plateforme, parce que évidemment, on le sait, le sida, c'est un peu l'Everest du vaccin. Donc il fallait trouver des choses très innovantes, et cette plateforme en est issue de 10 ans de recherche. Elle est arrivée au stade clinique, puisque les essais cliniques dans le cadre du VIH ont démarré l'année dernière. Et donc voilà, ce qui m'a motivé, c'est ce lien entre la recherche publique, l'excellence française et la capacité d'amener des produits, d'avoir un impact. Évidemment, dans le cadre de la pandémie, j'ai répondu tout de suite à cet appel.
Voilà. Et si l'on parle d'un point de vue très technologique, vos vaccins, si j'ai bien compris, vous ciblez en fait les cellules dendritiques. C'est en quelque sorte la première ligne de notre système immunitaire face aux attaques des virus, ou est-ce que c'est un peu plus complexe que ça?
Alors, c'est un petit peu plus complexe. On va essayer de simplifier. Désolé pour les scientifiques.
Allez-y.
Disons que c'est le drone de notre système immunitaire. C'est là où tout finit quelque part. Tous les vaccins, quel que soit leur type, arrivent toujours pour délivrer l'information, le talon d'Achille, à cette cellule dendritique qui scanne à tout moment des millions d'informations pour aller activer notre système immunitaire. Et l'intérêt de notre plateforme, de cette recherche, c'est d'amener directement l'information, de ne pas attendre qu'elle trouve statistiquement la bonne information, c'est d'amener le bon antigène, qui est la description du talon d'Achille du virus, au bon endroit, qui est cette cellule dendritique, qui est la clé du démarrage, je dirais, de l'action de notre système immunitaire.
Et ce qui permet donc d'optimiser cette réponse immunitaire et de façon plus durable aussi, par rapport au vaccin actuel.
Voilà, alors nous nous positionnons dans l'appel qui est assez général. Il y a un consensus aussi bien au niveau de l'OMS que du niveau de M. Fauci, du NHS. Il y a besoin aujourd'hui, et je rends hommage à l'ARN messager qui a été extraordinaire pour, je dirais, trouver une réponse et éviter des hospitalisations. On a besoin aujourd'hui de trouver une réponse plus long terme, c'est-à-dire de vivre avec le coronavirus, de s'adapter aussi à des nouveaux coronavirus. On en est au troisième qui passe de l'animal à l'homme. Il y en a 30 38 qui sont répertoriés aujourd'hui. Donc il est important de trouver une nouvelle génération de vaccins qui couvre à la fois ce besoin de couvrir contre l'infection. On évite aujourd'hui les hospitalisations, mais il faut trouver un moyen d'éviter les infections. Il faut trouver un moyen d'être beaucoup plus facile à déployer, avoir des capacités de production qui peuvent couvrir une population mondiale. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, vous voyez, il y a vraiment un besoin et un appel pour cette nouvelle génération. Et c'est là-dessus que notre plateforme est bien positionnée. Nous pensons que nous avons beaucoup d'atouts pour répondre à cette deuxième génération de vaccins, pour faire face à cette vie avec le coronavirus sur le long terme.
Et parce qu'on voit que l'épidémie, elle est en train, en cette fin mars, de reprendre un peu. Alors, ce n'est pas les mêmes chiffres il y a quelques temps, ce n'est pas les mêmes conséquences non plus sur le plan de l'hôpital notamment, mais elle est là quand même. Donc, contre le Covid-19, est-ce qu'on peut espérer, grâce à vous, un vaccin français d'ici quand? Et est-ce que vous y croyez? Parce qu'on nous a promis beaucoup de choses et rien n'arrive encore, quoi.
Alors, je dirais, dans le domaine des biotechnologies, évidemment, les essais cliniques sont très importants. Donc, il y a une promesse, il faut la concrétiser à travers la démonstration et la reconnaissance, évidemment, par les pairs, mais aussi à travers des essais de l'impact. Évidemment, à travers les essais précliniques, nous sommes confortés, nous sommes déjà en clinique sur un autre produit, le VIH, donc nous sommes confortés sur cette capacité à apporter une réponse. Notre concept et l'innovation de notre vaccin permet d'avoir cette activation non seulement des anticorps dont on entend beaucoup parler, mais aussi des cellules qui sont capables de d'éliminer le virus dans nos, donc les cellules T qui sont capables d'éliminer le virus dans nos cellules infectées. Donc cette réponse holistique générée par la capacité de notre vaccin à amener directement aux cellules dendritiques l'information, semble-t-il, et nous en sommes convaincus, peut apporter cette nouvelle génération de vaccins.
Et quand? Est-ce que vous avez une date? Ouais, alors, je sais que c'est un peu...
Alors, je veux dire, la loi de Moore, vous savez, la loi de Moore, on fait en 2 ans ce que les autres font en 20 ans. Donc, moi, le temps est très important. Donc, cette année, nous avons 2 candidats vaccins, on y reviendra, donc, qui sont aujourd'hui en production. Nous pensons être prêts pour démarrer les essais cliniques en fin 2022 et 2023, en fonction de la pandémie, évidemment. Vous avez vu qu'on peut accélérer plus ou moins en fonction de l'état de la pandémie. Donc voilà, nous sommes là pour répondre le plus vite possible à ce besoin de santé mondiale.
Alors vous l'avez dit, donc ce week-end, et le groupe Altice Media est partenaire de cette opération, c'est le SIDAction. Vous nous avez parlé d'essais cliniques de phase 1 qui avait débuté, je crois, au printemps 2021 contre le VIH. Vous en êtes où? Et là aussi, est-ce qu'on peut avoir des espoirs et in fine aussi un vaccin thérapeutique?
Alors, il y a 2 aspects, donc un vaccin prophylactique. Aujourd'hui, il y a énormément encore de plus d'1,5 million de personnes qui se contaminent en 2020, donc il est important d'avoir cette réponse aussi au niveau prophylactique, préventif. Donc notre premier vaccin qui est en essai clinique est un vaccin préventif, prophylactique. Il a été démarré en essai clinique phase 1. On ne peut pas révéler, évidemment, à la fin de l'essai, le résultat, mais nous sommes confortés. Et ce virus, qui est quand même l'Everest du vaccin, a besoin de beaucoup d'outils, beaucoup de vaccins pour répondre et trouver une solution. Évidemment, c'était la motivation, et je rends hommage au professeur Lévy, puisque c'est lui qui a été à la base de la création de l'Institut de recherche sur le vaccin, VRI français, 150 chercheurs qui travaillent depuis 2010 à trouver une réponse à ce virus, puisque toutes les autres plateformes vaccinales n'ont pas trouvé cette réponse. Et aujourd'hui, donc, nous sommes bien placés dans la course, nous ne sommes pas les seuls. Je crois que je viens d'un monde où la coopétition est importante, c'est-à-dire il semble aussi qu'il faille combiner peut-être plusieurs technologies, mais en tout cas, un vaccin protéique, qui est notre cas, pour parler un peu plus clairement pour les gens qui nous écoutent, les vaccins protéiques, c'est une classe de vaccins qu'on utilise tous les enfants, et nous-mêmes, on a été vaccinés avec des vaccins protéiques. Donc, il y a plus de 30 ans de recul, et il semble que ces vaccins-là soient très importants, soient une clé de voûte pour la réponse dans le cadre d'un vaccin prophylactique. Et nous avons un vaccin thérapeutique.
Et pareil, à quelle échéance? Est-ce que vous avez des espérances sur les échéances?
Alors là, évidemment, l'essai de phase 1 est très important. Nous pensons pouvoir publier les résultats cette année, en fin d'année. Voilà.
Il nous reste une minute, un peu moins d'une minute, très rapidement. La production des vaccins candidats contre le Covid-19 se fera en France, apparemment.
Tout à fait. Alors, nous avons évidemment accès à un très large volume de production. C'est l'intérêt de notre vaccin qui se classe dans les protéines et qui sont, en termes de volume de production mondiale, très répandus, ce qui permet d'avoir une réponse mondiale aussi par rapport à des pandémies. Nous avons, et ça c'est aussi mon passé, trouvé un partenaire en France capable de produire notre vaccin. Il a mis en place une offre, donc c'est notre partenaire, GTP BioWays.
Il est installé à Toulouse, mais qui produirait en Haute-Savoie.
Et qui produit aujourd'hui, donc en ce moment, Nolo Clinic à Saint-Julien-Genevois, en Haute-Savoie.
En Haute-Savoie. Très rapidement, le financement, vous avez fait partie du programme d'investissement d'avenir en 2021. À ce titre, vous avez reçu 31 millions d'euros, plus une levée de fonds en 2022. Tout ça est suffisant pour aller vers les objectifs ambitieux dont on a parlé ensemble.
Alors, les vaccins, évidemment, nécessitent beaucoup d'investissements. Donc, nous sommes en levée de fonds. Nous cherchons toujours à couvrir les besoins, en particulier sur les essais cliniques qui coûtent cher. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens, évidemment, d'accélérer grâce au PSPC Covid, cet appel à projet spécifique Covid qui nous a été attribué par l'intérêt et la rupture technologique de notre plateforme. Nous avons accéléré ce développement pour contribuer à trouver une solution à cette pandémie sur le long terme.
Eh bien, merci. On vous souhaite d'autres financements et surtout d'autres résultats. Merci beaucoup. Donc, André-Jacques Aubertan-Hervé, cofondateur de l'Inkivax, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir.
Merci à vous.
On va encore un peu rester dans le domaine très vaste et très prometteur de la santé avec Doctolib. On ne présente plus cette licorne dont les activités de prise de rendez-vous et de téléconsultation ont explosé pendant la crise du Covid. Eh bien, il lui faut maintenant gérer sa croissance et sa diversification. Il y a quelques jours, on apprenait une nouvelle levée de fonds de 500 millions d'euros. Doctolib est ainsi devenue la première licorne française en termes de valorisation et elle compte plus que doubler ses effectifs d'ici 5 ans. Les détails avec Raphaël Couder.
Ce nouveau tour de table valorise désormais Doctolib à 5,8 milliards d'euros. Une levée de fonds nécessaire pour que l'entreprise poursuive son rythme de croissance, explique Frédéric Simotel, éditorialiste à BFM Business.
Cet argent, il va déjà servir à payer les factures qui s'alourdissent aujourd'hui. Le cloud, avec le nombre d'utilisateurs que connaît Doctolib aujourd'hui, c'est une explosion de sa facture cloud. Donc là, il faut déjà il faut fournir de l'argent pour financer tout ça. Et puis derrière, ça va permettre aussi à Doctolib de doubler ses effectifs. C'est 2500 personnes aujourd'hui. Ils aimeraient passer à plus de 5000 pour aller en région, accompagner les professionnels de la santé pour qu'ils s'abonnent à ce service.
Aujourd'hui, 150 000 soignants ont souscrit au logiciel de Doctolib, ce qui ne représente que 25% du personnel médical. L'entreprise va donc recruter une armada de commerciaux dans 30 villes en France, ainsi qu'en Allemagne et en Italie pour séduire davantage de clients. Par ailleurs, Doctolib souhaite développer de nouveaux outils, notamment une messagerie qui doit permettre aux soignants d'échanger de façon sécurisée sur leurs patients en commun.
Alors, on l'a vu dans cette émission, que ce soit donc avec Doctolib ou encore avec Linkivax, BPI France est plus que jamais un acteur majeur du financement de l'économie française. Et en 2021, la Banque publique a même renoué avec les bénéfices, plus 1,8 milliard d'euros, un chiffre record depuis la création il y a bientôt 10 ans. Détail de ces bons résultats de BPI France avec Aude Kersulek.
Une année historique pour BPI France. L'an dernier, année du plan de relance, 25 milliards d'euros ont été injectés dans les entreprises, que ce soit par des cofinancements de crédit, des investissements en fonds propres ou bien des subventions à l'innovation. Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France.
On fait 1,8 milliard d'euros de résultats nets sans reprendre beaucoup de provisions. On reprend simplement une cinquantaine de millions. Donc c'est vraiment l'activité de l'économie française sur laquelle on est branché qui explique ce résultat. On est un proxy de l'économie française. Quand elle fait 7% de croissance, sens du PIB, la BPI va bien.
En termes de produits nets bancaires, ce sont les prises de participation qui ont le plus contribué aux revenus pour quasiment 2 milliards d'euros. 11 licornes se retrouvent ainsi aujourd'hui dans le portefeuille de BPI France qui n'a jamais dégagé d'aussi bonnes performances. Et alors que son coût du risque diminue, la Banque publique d'investissement rassure sur son exposition à la Russie, moins de 500 millions d'euros. BPI France reste aujourd'hui solide. Ses ratios de liquidité et de solvabilité sont 3 fois plus élevés que ce que la réglementation exige.
Et direction à présent les deux Savoies à la rencontre de cette France industrielle qui ne baisse pas les bras et mieux qui se développe. Tout d'abord, on part en Savoie, à Chambéry précisément, le siège de l'entreprise Opinel. La très célèbre marque de couteaux y est implantée depuis 1890. Les Opinel sont plus que jamais dans l'air du temps. En plus, ils s'exportent très bien. C'est un reportage La France qui résiste, signé Claire Sergent et Olivier Mélan.
Nous sommes à Chambéry devant l'usine Opinel. C'est en 1890 que Joseph Opinel a l'idée de créer le tout premier couteau pliant qui deviendra l'emblème de la marque. 130 ans plus tard, il s'exporte partout dans le monde. Suivez-moi. Encore aujourd'hui, le couteau pliant reste le modèle le plus vendu. 5 500 000 sont écoulés chaque année. Un couteau qui a fait l'histoire de la marque. Il est entré dans le dictionnaire et il a été sélectionné par le Musée d'art moderne de New York comme l'un des 100 plus beaux objets du siècle. Luc Simon est le directeur général adjoint d'Opinel.
Le couteau a peu changé depuis 1890. Par contre, la façon de le fabriquer, elle, a continuellement évolué pour éviter de trop grimper en prix tout en restant fabriqué en France. C'est un mélange d'étapes assez automatiques, hein, automatisées et de savoir-faire manuel.
Les matières premières proviennent presque exclusivement de France. Le bois vient du Jura et d'Isère et l'acier vient soit de l'Hexagone, soit de Suède, ce qui réduit les difficultés et les hausses des coûts d'approvisionnement et permet de maintenir une qualité constante.
On n'est pas énormément copié, on est un petit peu copié, mais notre meilleure protection, c'est un, que les marques sont bien déposées en France et dans le monde entier, donc les deux marques Opinel et La Main Couronnée, et deux, c'est notre très bon rapport qualité-prix qui est notre meilleure protection.
Le succès à l'export ne se dément pas non plus. Dès le début, Joseph Opinel a exporté ses couteaux, d'abord en Italie et en Suisse. Aujourd'hui, la marque est présente dans 70 pays et anticipe même que les ventes à l'étranger vont devenir majoritaires dans les années qui viennent.
Traditionnellement, notre présence à l'export était surtout sur l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Grèce. Alors, je parle des années 1920-1930. Depuis, l'Europe du Nord adore Opinel, l'Allemagne, les pays scandinaves, les États-Unis où on a ouvert une première filiale. On y travaille depuis les années 70, mais on y a ouvert une filiale en 2016. Et puis, il y a l'Asie qui se développe bien également, en particulier Japon et Corée du Sud.
Entre 2007 et aujourd'hui, le chiffre d'affaires est passé de 8 à 30 millions d'euros. La demande s'est encore plus accélérée ces deux dernières années. Opinel a même du mal à y répondre. Pour augmenter ses capacités de production, l'entreprise veut recruter 20 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année.
Et après Chambéry, on grimpe juste au-dessus, en Haute-Savoie, quelques kilomètres de la Suisse. C'est là qu'est installée l'usine des Deux Marmottes, cette marque d'infusion créée en 1976. Et malgré son nom, il n'y a pas question de s'endormir pour cette gamme de tisanes aux emballages très colorés, mais qui a su miser sur la qualité des produits made in France. Bref, vous allez le voir, si vous me permettez l'expression, on est bien loin des bonnes vieilles tisanes pisse-mémé. C'est un autre reportage signé, là encore, Claire Sergent et Olivier Mélan.
Nous sommes à Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, devant l'usine Les Deux Marmottes. Créée en 1976, elle fabrique des infusions. Son mot d'ordre, déringardiser les bonnes vieilles tisanes. Suivez-moi. Les Deux Marmottes proposent 37 parfums de thé et d'infusion exclusivement à base de plantes. Chaque jour, elles sont vérifiées et les recettes testées par un maître infuseur, un goûteur qui contrôle tout, la couleur, le goût et le parfum.
Donc là, je décèle un goût un peu plus marqué en teint sur l'échantillon qui est en cours de production. Donc là, pour le coup, j'ai à faire un petit ajustement en eucalyptus et en écorce de citron. On n'utilise pas d'arôme, donc pour le coup, c'est de la plante et rien que de la plante, et on a toujours de petites variations à corriger pour vraiment avoir le goût le plus constant, le plus homogène possible.
En 1976, Simone Veil autorise la vente de plantes médicinales hors des pharmacies. Maurice Lebras saisit l'opportunité et crée les Deux Marmottes. À la fin des années 90, son beau-fils lui succède. Il décide de tout fabriquer lui-même et de s'approvisionner en plantes directement chez les producteurs. Puis en 2014, il décide de dépoussiérer la marque et les infusions.
Et il le fait en lançant des nouveaux emballages qui sont pleins de couleurs et qui ont aussi en fait cette petite touche d'humour qui fait la personnalité unique de Deux Marmottes.
Christian Polch, le directeur général, raconte.
Pendant quelques semaines, il ne sait pas trop si ça va bien fonctionner ou pas. Et puis après, le succès arrive. Il y a une croissance de 25% cette année-là. L'année suivante, il y a encore une croissance de 25%. Et depuis cette date-là, je dirais que l'entreprise en fait se développe très régulièrement avec des croissances de l'ordre de deux chiffres chaque année.
Il y a 4 ans, les Deux Marmottes sont rachetées par un groupe d'investisseurs français. Christian Polch, passé par Coca-Cola, est embauché pour faire de l'entreprise le leader des infusions français.
1 200 000 foyers vont acheter notre produit au moins une fois dans l'année. Donc on reste encore une petite marque avec un gros potentiel de développement.
Les Deux Marmottes ne sont pas distribuées dans tous les supermarchés et surtout, elles sont absentes des enseignes discount. Elles sont présentes à la grande épicerie de Paris ou encore chez Monoprix. Mais avec sa forte croissance, son chiffre d'affaires qui a doublé en 6 ans, la marque compte bien multiplier sa présence dans les rayons.
Et après le patrimoine industriel, eh bien, on va terminer cette émission avec le patrimoine architectural français, avec Pierre d'Histoire. Pierre d'Histoire, eh bien, repose et propose de louer des lieux d'exception, des manoirs, des moulins, des pigeonniers pour y organiser des événements privés ou des événements d'entreprise. Actuellement, plusieurs sites sont ouverts à la location en Île-de-France, en Normandie, mais aussi dans le Luberon et dans le département de l'Hérault. Adrien Gabon, le directeur général de Pierre d'Histoire, était l'invité de Good Morning Business.
En fait, Pierre d'Histoire va proposer à la location des propriétés chargées d'histoire. On va essayer de penser tout en détail pour que nos clients passent un séjour parfait. Donc, comme vous l'avez dit, on va retrouver des manoirs, des moulins, des pigeonniers. Et l'idée, à chaque fois, c'est d'aller essayer de sauver du patrimoine. Mm-hmm. Donc, on est en recherche permanente de propriétés qui sont souvent en péril. Et on fait intervenir des artisans, des menuisiers, des charpentiers, des maçons.
Ce que vous financez ensuite avec le tourisme.
Exactement. Ces maisons sont mises ensuite en location pour des particuliers qui viennent y passer des courts séjours. Donc, ça va être des week-ends autour de Paris. Ça va être des séjours plus longs en vacances dans le sud de la France, par exemple. Et puis aussi, on s'adresse aussi aux entreprises pour des séminaires. Donc, des séminaires, des petits séminaires de 20 à 30 personnes maximum. Et puis on s'adresse aussi pour les événements familiaux, donc on va avoir des propriétés qui vont recevoir des mariages et autres événements familiaux.
Comment vous positionnez par rapport à des concurrents qu'on connaît bien, comme Relais Château par exemple? C'est quoi le positionnement à la fois prix? Vous avez moins de propriétés, mais en même temps, c'est pas pareil. On est dans une maison, en fait.
Alors déjà, vous louez des maisons avec service, c'est-à-dire que donc on va vous mettre en relation avec des partenaires pour une livraison de petits déjeuners, de repas. On a des partenaires qui vont faire des massages et tout ça. On va vous proposer des activités également dans les maisons et autour de nos maisons.
Ouais.
On n'est pas un hôtel à proprement dit, on est une location de maison avec service où tout est vraiment pensé dans le détail.
Donc en fait, vous mettez à disposition la maison pour un prix moyen de combien à peu près?
Alors on a un prix par nuit en 2021 qui est de 75 euros par nuit par personne.
D'accord.
Alors ça masque pas mal de disparités parce qu'il y a une hétérogénéité des maisons. Si vous voulez un autre exemple, une maison dans le sud de Paris, un petit moulin dans un parc exceptionnel avec deux chambres, un salon, sa cuisine complètement équipée, ça va être de l'ordre de 400 euros par nuit.
Et je précise que Pierre d'Histoire reverse une petite partie des revenus des séjours à une fondation qui œuvre pour la restauration du patrimoine. Voilà donc, c'est la fin de cette émission de La France à tout pour réussir. Rendez-vous le week-end prochain. Nous serons au tout début du mois d'avril. On parlera notamment de Homeland, de ces néo-syndics qui tentent d'améliorer, il y a vraiment du boulot, l'image et l'efficacité des syndics de copropriété. D'ici là, bon week-end, très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, La France a tout pour réussir.